pour la Cannes, qui doit s'engager dans des processus en rapport avec diverses initiatives en dehors un petit peu du monde de la Cannes, à Genève, à New York et dans d'autres endroits du monde. Nous avons plusieurs invités qui vont nous rejoindre pour parler de différentes parties de l'ordre du jour. On va modifier un petit peu notre ordre du jour en ce qui concerne l'ordre par lequel nous allons analyser les questions. On parle de challenge, de défis à relever, où la présence de l'ICANN doit être ressentie et où la collectivité doit apporter donc son feedback et sa participation. Ce, dans différents forums. Nous avons autour de nous le président Mathieu Cher qui travaille à la gouvernance de l'Internet, groupe de travail Tarek Kamal. Également, je représenterai toutes les personnes. Je crois que Rafik Damak et Yongam Lee vont nous rejoindre rapidement. Ils doivent être à une autre séance. Il y a beaucoup de séances qui sont un petit peu en retard aujourd'hui. Donc, quelques conseils d'ordre logistique. Je vous demanderai d'indiquer votre nom avant de vous exprimer parce que nous avons une interprétation en langue française et espagnole. Et en français, oui. Voilà, donc nous avons de l'interprétation et on indiquera donc votre nom. Pour... Voilà où nous en sommes et sans plus attendre, nous allons commencer par une présentation de Tarek Kamal qui est dans le département de l'engagement de l'ICANN. Vous le connaissez, il a travaillé beaucoup à l'écosystème politique de l'Internet. Je lui donne sans plus attendre la parole. Merci beaucoup, Olivier. Je m'appelle Tarek Kamal et je suis très heureux d'être ici, de participer à ce groupe de travail intercommunautaire sur la gouvernance de l'Internet. Je vais donc tenter aujourd'hui de commencer avec quelques questions ou observations. Sur lesquels nous pourrons réfléchir, tout particulièrement l'évolution du paysage au niveau de la gouvernance de l'Internet et au niveau mondial, et le rôle de l'ICANN dans ce paysage en mutation. Jusqu'où devons-nous rester engagés? Quelles sont nos priorités à l'ICANN avec notre mandat technique, en travaillant avec ISTAR, notre organisation jumelle au niveau de la technologie? Donc, est-ce que nous commençons à voir des symptômes de fatigue au niveau de la gouvernance de l'Internet, puisque nous y en parlons, nous y travaillons depuis plus de 10 ans, il y a des modifications qui existent? C'est la première question que je poserai. Je pose cela parce que je crois que nous l'avons observé au groupe d'experts gouvernemental en juin dernier. Ils ne sont pas arrivés à une conclusion. On l'a vu au CSTD, aux différentes entités de collaboration qui n'arrivent pas à trouver des conclusions, à atteindre des conclusions. Il y a d'autres exemples également. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur la participation des gouvernements à l'IGF, au Forum mondial de l'Internet. Il y a beaucoup plus qui se fait au niveau régional et national, mais au niveau mondial, il semble qu'il y a une certaine fatigue . Donc la gouvernance de l'Internet montre donc des signes de fatigue. Deuxième question, est-ce que nous voyons des modifications au niveau sectoriel en ce qui concerne les thèmes de la gouvernance Internet mondiale au niveau de plusieurs secteurs ou au niveau mondial, si nous supposons que cette fatigue existe? Réfléchissons à ce point et nous avons également des modifications du paradigme qui existent au niveau des débats thématiques débat sectoriel sur les politiques de l'Internet. Je ne dis pas nécessairement que c'est basé sur les Nations Unies, pas obligatoirement seulement au sein des Nations Unies, mais dans différents secteurs qui existent. On entend dire, si vous ne résolvez pas les questions de gouvernance de l'Internet, eh bien, il y a d'autres plateformes qui vont être utilisées. Et là, vous pouvez mieux gérer ces défis à relever. Peut-être qu'ils veulent qu'on en soit là en tant que communauté technique pour que l'on puisse apporter notre point de vue. Notre expérience est éventuellement nécessaire, notre travail en tant qu'entité multipartite. Donc, est-ce que l'on va plus vers des débats sectoriels, thématiques? On a eu certains exemples là-dessus, Internet et juridiction. Bertrand de la Chapelle travaille à cela. Le G20, le G7 débattent également de certains points concernant la gouvernance de l'Internet. Donc, dans ce cas, jusqu'où devrions-nous aller en tant que communauté ICANN? Quelles sont nos priorités pour la participation? Quel est notre engagement au niveau technique? Et je crois qu'on est les bienvenus là où nous voulons aller, dans ces différents forums. Nous ne serons pas rejetés. Mais un exemple que j'aimerais donner et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, ces 10 derniers jours, j'étais au GSME et il y a beaucoup de débats au sujet de l'évolution technique du 5G, de l'Internet des objets. Ça, on en parle beaucoup parmi les prestataires de services Internet et pour les téléphones portables, pour le GSM, au niveau du GSME. Donc, quel va être l'impact au niveau de l'écosystème? Jusqu'où devrions-nous aller? Est-ce que nous devons travailler beaucoup avec les prestataires de services de téléphonie mobile qui travaillent au 5G? Et c'est une évolution technique importante, pas seulement pour les communications avec les téléphones portables, mais pour les bandes passantes. Ils fournissent donc de nouvelles plateformes. Est-ce que nous devons être présents en tant que communauté technique pour donner notre point de vue sur les plateformes GSM? Donc, en tant que communauté habilitée, je crois que nous sommes les bienvenus là où nous voulons aller, mais je voudrais donc que le groupe de travail intercommunautaire réfléchisse à cela aujourd'hui pour que, tandis que nous poursuivons nos activités dans différents forums sur le nommage et l'adressage, nous allons continuer à soutenir les IGF régionaux et mondiaux, mais nous devons être bien conscients de ce qui se passe au niveau mondial et des différentes évolutions, des différents forums, des problèmes de processus de cybersécurité, par exemple. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons prioriser nos ressources, nos engagements. On ne peut pas être partout. À la fois, nous devons établir une liste de priorités pour notre personnel, notamment pour l'organisation ICANN, ICANN.org. Donc j'aimerais commencer avec ces remarques, lancer le débat et redonner la parole à Olivier Crépin-Leblond. Merci beaucoup. Merci Tarek, Olivier Crépin-Leblond au micro. Merci beaucoup d'avoir un petit peu lancer la balle avec de nombreux thèmes que vous avez soulevés. Donc, nous allons gérer cela. Cela va donner un peu de structure à notre débat et à notre réunion. Vous avez parlé des ressources IP de protocole Internet, distribution et des identifiants Internet, pas seulement les adresses IP, mais également les GTLD et les débats qui se déroulent à WTSC, à l'Organisation internationale des télécommunications également, tout ce qui est débattu au niveau de l'OMC pour le commerce mondial. Et il y a un débat également important au niveau des noms géographiques de premier niveau. Donc nous avons Palio et Anora de Ipinic, Nigel Hickson de l'ICANN, personne de l'ICANN, et Marilyn Cade également, nous les connaissons bien. Ce sont des participants habituels de nos réunions. Nous avons l'entité constitutive, je ne vais pas utiliser trop d'acronymes, c'est une unité constitutive d'entité commerciale. Donc je veux que tout le monde puisse prendre la parole. Dites-nous si vous voulez prendre la parole. Je crois que nous avons un micro qui peut se déplacer dans la salle si vous voulez prendre la parole. Voilà. Marilyn Cade voudrait prendre la parole, je la lui donne. Je m'appelle Marilyn Cade et je crois que, comme vous le savez, je ne suis pas là pour annoncer une défaite, mais j'aimerais donc répondre à certains points. Vous savez qu'il y a des paraboles que l'on utilise parfois pour s'exprimer et où en sommes-nous? Nous sommes dans un nouveau cycle. Nous pouvons revenir un petit peu en arrière. Nous avons vécu d'autres cycles. Nous avons donc de l'expérience à ce niveau. Mais là où je me vois, c'est que chaque année, des innovations technologiques, les nouvelles idées commencent à être une force motrice. L'utilisation de ces nouvelles technologies a un impact sur l'envergure des politiques qui existent au jour d'aujourd'hui. En 2009, j'étais à la tête d'un projet du G20 pour les politiques des technologies de communication, pour convaincre le G20 et les chefs d'État du G20 que les technologies de l'information devaient faire absolument partie de l'ordre du jour du G20. Et donc, j'ai vu à ce moment des chefs d'État, mis à part le président Clinton, à qui je pouvais parler, donc je plaisante, mais à ce moment-là, les chefs d'État parlaient très peu des technologies de communication et de l'Internet. Maintenant, la situation est différente. Je crois qu'il y a une grande maturation qui existe. Je crois que nous avons commencé à trouver des solutions, mais nous sommes rendus compte qu'il y avait de grandes complexités également dans le monde des technologies, dans le monde de l'Internet qui existe maintenant dans notre quotidien. Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu et pourtant la vie des citoyens est modifiée par l'existence de ces technologies Internet. Donc, il y a des leaders, des politiques qui ont été nommés et qui doivent réfléchir à ces questions. Donc, j'ai passé la plupart de ma carrière technique à AT&T et j'ai travaillé dans le secteur de l'Internet et de l'informatique. J'ai travaillé à beaucoup d'entités des Nations Unies, l'UT, par exemple, ILO, vous pouvez passer l'OCDE, vous pouvez passer l'alphabet en revue. Et beaucoup de défis qui étaient à relever, c'est que toutes ces institutions et organisations forment leur personnel pour être au courant, être à jour des modifications qui existent. Et dans beaucoup de ces organisations, si personnes sont élues, les dirigeants sont élus, eh bien, ils ne sont pas obligatoirement élus parce qu'ils connaissent bien ces questions techniques et les implications des technologies et des nouvelles technologies. Donc, il me semble que l'engagement de l'ICANN et de iStar et de cette communauté réunie ici dans cette salle, dans toutes ces entités dont je vous parlais tout à l'heure, est absolument crucial pour tout simplement être un expert technique. Merci beaucoup Marilyn, Olivier Crépin-Leblanc. J'ai vu Jim Prenogast qui a levé la main, donc je vais lui donner la parole.
Oui, bonjour. Vous avez déjà abordé beaucoup de choses avec beaucoup d'acronymes, mais je me demande, je vais vous poser quelques questions. Quelle direction avez-vous prise par rapport au conseil pour les activités que vous menez dans votre équipe? Et jusqu'où est-ce que vous allez aller? Vous ne pouvez pas tout couvrir jusqu'à... Merci de poser cette question. Nous avons la chance d'avoir un groupe qui travaille sur la gouvernance de l'Internet et qui analyse ces problèmes dans la mesure, à mesure que nous avançons. Il est clair que le Conseil reconnaît qu'il y a des priorités et lorsqu'il s'agit de problèmes liés au nom et à l'adresse, et ICANN doit être plus visible et doit prendre la parole parce que c'est notre responsabilité. Sinon, nous parlons de collaboration, de participation et de participation sélective basée sur des thèmes, sur des questions thématiques. Et pour la participation de la communauté à ces thèmes-là, concernant la sécurité, les droits de l'homme, la protection de données et la protection de la vie privée. Je voudrais décrire un petit peu ce que sont ces changements. Est-ce que Marilyn l'a dit, hein, il y a des organisations qui regardent notre expertise en tant que communauté, pas seulement ICANN, mais comme la communauté de ISTAR. Donc nous devons engager un dialogue ensemble parce que nous n'avons pas de réponse concernant la priorisation et nous avons besoin de la communauté technique et des différents groupes de travail justement pour prioriser. Mathieu, vous avez la parole. Merci Olivier. C'est une très bonne question, Mathieu au micro. Alors, qu'est-ce que le Conseil fait dans le domaine de la gouvernance de l'Internet? Nous essayons de mettre en place une approche plus stratégique et plus priorisation concernant certains des problèmes de gouvernance de l'Internet pour refléter ce que fait TAREC et d'autres membres de la communauté. Donc, ce processus est en cours de mise en œuvre. Ce que nous essayons de faire, c'est d'assurer qu'il existe un terrain pour ce qui peut arriver par la suite dans le futur. Et c'est très important, c'est une tâche très importante pour le Conseil. Nous devons savoir comment affronter les défis liés à la gouvernance de l'Internet. Je crois que TAREC a partagé avec nous ce que son équipe fait. Cela comprend des choses tout à fait traditionnelles, mais comme il le dit, nous devons aussi reconnaître l'espace de la gouvernance de l'Internet qui évolue et nous adapter à cet espace. Ce n'est pas seulement le défi de la gouvernance de l'Internet, c'est un défi qui existe de manière dans un environnement beaucoup plus distribué. Cela pose des difficultés en termes de ressources et autres. Donc, c'est une partie importante de la conversation que nous avons actuellement avec son équipe et avec le MSII. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue à Rafik, le coprésident de la GNSO, à notre table. Nous avons maintenant Steve Dabianco. Merci, Olivier. Olivier, TAREC, vous avez parlé de la participation d'ICANN à l'IGF et ce genre de choses. J'étais là lorsqu'ICANN a essayé de mettre en place un panel sur les identificateurs. Et ICANN était bien représenté, bien organisé, mais finalement, on avait une attitude beaucoup trop défensive, trop agressive concernant le nom de domaine. Donc, Je voudrais voir un petit peu ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce domaine. Il s'agit d'une confrontation de thèmes. Nous devons ici gérer cela avec la partie technique, avec une certaine diplomatie, et il nous faut avoir une approche qui tienne compte des besoins qui évoluent. Et en fin de compte, nous devons embrasser l'évolution de la technologie, le nom de domaine, les numéros pourraient évoluer vers quelque chose de différent. Cette communauté pourrait continuer à évoluer plutôt que de se transformer en un environnement multilatéral. Donc, si nous ne tenons pas compte de tout cela, si nous avons trop d'animosité envers les noms, les numéros et les noms, cela risque de se retourner contre nous. En ce qui concerne le secteur commercial, je pense que ce ne sera pas un problème l'année prochaine. J'étais à l'IGF à Genève et la plupart des séances étaient sur la société civile et la plupart des membres, des personnes qui participaient à ces séances exprimaient leurs soucis et pour le secteur académique, le Sud, hein, et des préoccupations liées aux différentes plateformes qui, dans des pays moins développés, sont moins présentes, qui des soucis concernant les données qui disparaissaient de certaines plateformes. On parlait de Airbnb et d'autres organisations de ce type. Donc, je peux vous dire que nous allons être à toutes les réunions de l'IGF pour essayer de comprendre quelles sont les préoccupations et pour répondre de la manière la plus appropriée possible. Et la meilleure façon de répondre, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités économiques qui existent, qu'il faut répondre à cet écosystème, qu'il faut comprendre cet écosystème et nous devons explorer certaines nouvelles possibilités sur de nouvelles plateformes, par exemple au niveau de l'agriculture, pour améliorer certains secteurs de l'agriculture. Donc, nous devons participer, pas seulement défendre, expliquer, explorer les opportunités qui peuvent surgir aussi. Merci, Steve. Olivier, au micro. Est-ce que, Andrew, vous voulez répondre à Steve? Allez-y. Andrew, au micro. Je viens de Colombie et à propos de ces nouveaux modèles commerciaux et des opportunités qu'ils représentent, je pense qu'il faut analyser cela de manière moins statique. L'idée que nous avons des compagnies qui utilisent des données dans le nord et que dans le sud on a des victimes, cela change, cela évolue. J'ai eu des réunion avec Diego Bellana, par exemple, il y a 4 jours, qui est le responsable des TIC en Colombie. Je suis allée le voir à Cartagena. On a parlé de système de type Uber, qui s'appelle Automobile, qui met en contact donc les chauffeurs et les clients. Et il disait que ce système permet à Bogota de trouver tout ce qu'on veut, hein, de cette manière sur ce type de plateforme. Donc, je pense qu'il ne faut pas considérer ce débat comme quelque chose entre le Nord et le Sud. Nous devons encourager l'ouverture pour que ces nouveaux modèles commerciaux apparaissent, parce qu'ils apparaissent dans le Nord et dans le Sud aussi. Olivier, merci Andrew. Olivier, au micro, un petit commentaire de Tariq qui doit partir, hein. Donc, Tariq au micro. Oui, je vais partir, je reviendrai, mais je dois partir. Pour répondre à Steve, ICANN ne va pas mettre d'obstacle contre les nouvelles technologies, c'est clair. Et au niveau du conseil, au niveau des équipes en général, nous sommes d'accord dans ce sens. Il y a des fois, nous avons l'air d'être un petit peu défensifs, mais ce n'est pas... Ça ne sera jamais le cas. Nous voulons accepter toutes les technologies, les encourager à surgir et encourager tout cela au niveau des multipartites, des différentes parties prenantes. Bien, Steve va nous parler des défis. Pablo, maintenant, et Pablo au micro. J'ai été surpris par l'ordre du jour de votre réunion qui parlait des défis pour la distribution des identificateurs de l'Internet. Et ensuite, on parle des discussions au niveau mondial liées aux adresses IP et au TLD. Et par exemple, pour l'UIT, donc je préférerais aborder la discussion de manière plus positive et parler des opportunités plutôt que des défis. Je ne peux parler qu'au nom de APNIC. Nous essayons de participer de manière positive et c'est le cas de l'UIT. S'il y a différentes idées ou différentes approches aux différents problèmes que l'UIT aborde, il y a aussi différentes opinions des États membres aussi, hein. Et il y a un niveau d'objectif commun dans le domaine du secteur du développement APNIC. Nous avons une très bonne collaboration au niveau régional avec le bureau régional de l'UIT, avec des ateliers sur IPv6, une assistance directe dans les pays. Et beaucoup de membres de l'UIT sont aussi des membres d'APNIC et ils veulent en savoir davantage sur la façon de déployer IPv6, par exemple. L'année dernière, il y a eu le WTVC à Buenos Aires. Après de nombreuses discussions compliquées, il y a eu un texte de résolution, par exemple la résolution 63 sur l'IPv6. Et pour la première fois, si vous regardez le résultat, on a mentionné directement dans cette résolution une coopération entre l'UIT et les registres Internet régionaux. Et pendant longtemps, on parlait seulement de cela dans une note en pied de page. Donc, je pense que c'est un changement tout à fait positif. Et cela est dû au travail fait par ICANN, fait par les RIR, les organisations qui sont présentes sur place et qui participent de manière positive à tout cela. Donc, je pense que plus que des défis, c'est la façon de participer, de travailler dans tous ces domaines. Bien. Est-ce que je peux continuer à parler ou pas? Olivier, au micro. Oui, allez-y. Pablo, au micro. J'ai deux ou trois choses de plus à dire. Tariq a parlé d'une longue liste de processus, d'organisations intergouvernementales, multilatérales, au niveau international. Mais je dirais que pour nous, la participation se fait au niveau régional. Et dans le cas de APNIC, dans la région de l'Asie et du Pacifique, il y a eu un changement dans nos engagements parce que notre engagement principal a lieu moins au niveau mondial intergouvernemental et a beaucoup plus d'importance au niveau régional, au niveau de la communauté régionale. Et nous avons une sécurité concernant la transition. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas et que nous ne pouvons pas et nous occuper de ces problèmes, mais pour nous, le plus important, la participation, hein, la manière de participer, c'est de travailler avec la communauté technique, de créer, d'augmenter les compétences. Et donc, je ne vois pas cette fatigue dont Tariq, ce surmenage dont Tariq parlait. Je vois plutôt un changement concernant les problèmes de gouvernance. Et je vois beaucoup de changements aussi au niveau de la sécurité, parce que la sécurité est vraiment un problème. Et je crois qu'ici, nous avons l'occasion de collaborer et au niveau entre les informations de manière constructive. Voilà. Je m'arrêterai là. Olivier, au micro. Merci, Pablo. Et que se passe-t-il concernant les propositions des différents pays concernant l'allocation d'adresses IP fournies à travers différents canaux? Est-ce que c'est toujours sur la table? Pablo, au micro, je pense que cela va continuer à être le cas, bien sûr. Et j'espère que de plus en plus, au sein du secteur gouvernemental, on va voir ce type de tendance, et on va voir ce type de discussion concernant la collaboration, l'acceptation de la communauté technique, le travail avec la communauté technique.
Marilyn Kidd au micro. J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit. Et je m'attends à ce que ces propositions se poursuivent de la part de certains États membres. Mais j'ai passé de nombreuses années dans ces groupes de travail de l'Organisation internationale des télécommunications. Et j'ai vu parfois 11 pays qui représentaient une majorité sur des centaines de millions d'utilisateurs de l'Internet. Donc, entre 2001 et 2005, nous sommes passés ensuite à 1,4 milliard et nous avions à ce moment-là une meilleure participation des gouvernements. Et ce que j'ai observé, Pablo, c'est que nous étions dans une salle et 60 à 70% des gouvernements étaient très prudents et parfois même négatifs. Moi, je crois que il y a peut-être uniquement 5 ou 6 qui se concentrent principalement sur la participation et le contrôle. Et je crois qu'une des raisons pour laquelle cela se déroule, c'est en raison du travail qui a été fait, travail de formation, travail d'échange et de prise de conscience. Merci beaucoup, Marilyn. Olivier Crépin-Leblond, donc Nigel Hickson, qui va nous parler de ce qui a été fait par l'ICANN, membre du personnel de l'ICANN, donc. Oui, merci beaucoup, Nigel Hickson. Oui, je voudrais être très bref. Comme de nombreuses personnes l'ont déjà indiqué, comme Matthew Shears, l'ICANN continue à observer les différents développements dans cette arène, avec une réunion plénipotentiaire, avec un processus de préparation qui est déjà démarré pour différentes régions, pour différentes propositions. Et ISOC et les différents registres Internet sont engagés à ces préparations régionales. Nous avons été invités à plusieurs manifestations de préparation régionale. En général, nous sommes les bienvenus pour bien comprendre les propositions qui sont sur la table, pour fournir des informations également sur notre travail. Donc je pense que nous aurons des propositions en rapport avec les noms géographiques, avec les noms peut-être de pays. Les membres plénipotentiaires vont parler de l'IPv6. Mais comme l'a dit Pablo, c'est une possibilité qui s'offre à nous de promouvoir l'adoption de l'IPv6 dans la chaîne de valeur. Donc au niveau de l'Organisation internationale des télécommunications, nous pensons également que nous sommes bien placés pour débattre avec toutes ces parties prenantes. Merci, Nigel. Et qu'en est-il de l'OMC ? Olivier Crépin-Leblond au micro. Pour l'OMC, il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau de l'Internet. Est-ce que l'ICANN travaille beaucoup avec l'OMC ? C'est une question très ouverte. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui suit cela ? Nigel ? Oui, comme l'a dit Tariq, il y a beaucoup de dynamique au niveau des problèmes en rapport avec l'Internet dans les forums internationaux. Pas seulement la gouvernance de l'Internet, mais les problèmes qui peuvent exister. Par exemple, à l'OMC, on a parlé du commerce électronique. Et l'OMC doit redynamiser ce commerce international. Et donc, il y aura une piste de travail sur le commerce international. Il y a des débats multilatéraux à Genève. On n'a pas accès à cela. Je ne sais pas si l'on devrait suivre cela de plus près. Mais en effet, on parle un petit peu des noms de domaine lorsque l'on parle d'e-commerce. Donc c'est très intéressant de suivre, si possible, ces débats. Marilyn, la communauté des entités commerciales, est-ce qu'elle suit cela ? Oui, bien sûr, Marilyn au micro. Nous avons même quelqu'un dans la communauté commerciale et qui est dans la salle actuellement, qui pourrait nous en dire plus sur ce qui se passe. Donc, est-ce que je vois quelqu'un qui veut prendre la parole ? Voilà, oui. Moi, je ne suis pas obligatoirement volontaire, mais c'est une question qui provient également du chat à l'extérieur. Bill Drake qui nous dit quelles sont les preuves que l'OMC fait quelque chose sur les identifiants. Ce n'est pas vraiment ce qui les préoccupe. Je ne sais pas si c'est une réponse à la question, c'est une autre question. Marilyn Kate. Bon, une remarque d'ordre général par rapport à l'engagement des entités commerciales à l'OMC. En général, et j'ai travaillé à l'OMC de par le passé, mais ça fait assez longtemps, en général, c'est une organisation commerciale pour le commerce international. Et donc, il y a une mission, et le cœur de la mission qui est important. Il y a des agences très spécialisées. Nous avons des experts. Mais lorsque l'on voit ce qui soutient le commerce international, il est très clair qu'il y aura des questions qui seront posées sur le rôle des plateformes, y compris les identifiants uniques. Je crois qu'il y aura ce débat. Je n'ai pas encore vu formellement d'analyse de la question, mais il me semble qu'il y a des suggestions des États membres de l'OMC qui demandent s'il y aura des éléments en rapport avec le commerce. Je ne vois pas formellement d'accord, mais pour répondre à Bill, où sont les preuves ? Les États membres, dans des organisations comme UT, donc au niveau bilatéral, peuvent communiquer entre elles, ce qui ne veut pas dire qu'un thème va être à l'ordre du jour. Parce qu'il y a un débat, ça ne veut pas obligatoirement dire que ce thème sera traité d'une manière formelle durant l'ordre du jour de la réunion. Merci beaucoup Marilyn, Olivier Crépin-Leblond. Il y a des personnes qui sont derrière moi. Je n'ai pas d'œil dans le dos, mais je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, dans la salle, sur cette discussion, sur les identifiants uniques. Nous avons un micro qui peut vous être apporté si vous voulez prendre la parole. Donc il y a les noms géographiques. Est-ce que c'est pour les Nations Unies ce travail sur les noms géographiques uniquement ? Un peu de provocation. J'ai entendu un nom dans la salle. D'accord. Donc, cela résout le problème. Donc, les tensions entre le modèle multipartite et multilatéral. Donc, on sait ce qu'est le modèle multipartite dans le concept de l'ICANN, dans le cadre du forum Internet mondial. Mais on nous dit que le système multipartite n'est pas particulièrement efficace et n'atteint pas beaucoup de décisions. Il y a des cabales, il y a parfois des problèmes. Vous pouvez utiliser le terme que vous désirez. Donc, est-ce que ça empire ou est-ce que c'est plus facile ? J'ai quelques noms de personnes qui voudraient prendre la parole. Marilyn, Jim Hockey-Cancio. Il est peut-être parti, je ne sais pas. Je ne le vois plus. Et Tatiana. Tatiana, vous voulez prendre la parole également. Donc, nous allons commencer avec Martin Butterman. Oui, merci beaucoup, Olivier. Je voudrais que ça soit très clair. Moi, J'ai travaillé pour le gouvernement il y a quelque temps au niveau multilatéral. Cela n'exclut pas le modèle multipartite. Donc, ce que l'on fait dans le modèle multipartite est excellent. C'est très bien que ce soit soutenu. Nous devons nous assurer que ce que nous voyons également, ce que nous observons également, c'est que les gouvernements se rassemblent et ils n'ont pas toujours la même conception des choses. Donc on peut leur dire ce n'est pas exact. Ou on peut leur dire, eh bien, engagez-vous. Et nous aurons ainsi beaucoup de multipartisme. Donc ça me paraît une participation très intéressante. Merci beaucoup, Martine. Tania, vous voulez prendre la parole? Oui. Nigel veut peut-être reprendre la parole, parce qu'il y avait une sous-question là-dedans sur l'engagement des gouvernements, sur les processus de la CAN et d'autres processus. Donc, je vais redonner la parole à Nigel. Nigel, très rapidement, parlez-nous de ces petites différences qui existent. Oui, très bien. Eh bien, Olivier, merci beaucoup. Je crois que la plupart des personnes, Nigel au micro, la plupart des personnes pourraient commenter à ce sujet. Ce que nous observons dans le domaine multipartite de l'ICANN, les gouvernements ont un impact direct sur le processus de prise de décision, tandis que dans d'autres modèles multipartites, l'engagement n'est pas exactement le même, notamment au niveau de la prise de décision. Donc, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet, beaucoup de documents ont été rédigés sur ce sujet d'analyse. La Société de l'Internet, Larry Strickling a écrit lui-même un texte là-dessus sur le modèle multipartite et à quel point l'engagement des personnes était différent. Donc, ce que nous avons à l'ICANN, et nous connaissons bien le processus, on peut s'engager avec la communauté technique et en tant que communauté technique, il y a des entités commerciales et la société civile et on participe au maximum à tous les niveaux avec WIPO, la propriété intellectuelle, ces organismes mondiaux qui ont donc, voix au chapitre sur certains domaines internationaux et régionaux. Donc, il y a quelqu'un autour de la table qui a beaucoup d'expérience sur le CSTD et sur une coopération accrue. Comment est-ce que cela s'est-il déroulé? Merci, Olivier. Jim Stonofier, bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'une coopération accrue, eh bien, ce que nous faisons ici, c'est exactement cela, une coopération accrue. On est en train de débattre d'un point très important. Donc, je crois que je commençais par cela. Et j'observe donc que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, j'étais très optimiste. Et il y a eu une résolution du groupe de travail sur une coopération accrue au niveau des Nations Unies. Il y avait ce groupe de travail pour une coopération accrue pour ce qui avait trait à l'Internet au niveau des politiques publiques. Et j'ai été très optimiste. On pouvait atteindre une recommandation par consensus et l'Assemblée générale voulait que le groupe y parvienne. Mais revenons un petit peu en arrière. Pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi on parle, après 2005, il y a eu deux résultats, la gouvernance de l'Internet, le forum de gouvernance de l'Internet, et une coopération accrue, deuxième piste, avec les gouvernements, tous sur un pied d'égalité, qui font des politiques ayant trait à l'Internet, une collaboration avec les parties prenantes. Et à ce moment-là, dans le cadre de l'ICANN, la gestion des ressources essentielles de l'Internet, donc les différents paramètres IPP en 2016, nous avons noter que cela a été géré d'une manière où la communauté a été beaucoup plus engagée dans le processus. Il y a l'USG qui a travaillé à cela. Nous avons eu des consultations en 2012 avec les Nations Unies et d'autres parties prenantes qui ont exprimé leur opinion. Comment réussir ce processus? Il y a eu des recommandations d'effectuer avec un groupe de travail, avec le président de la STD. Le groupe de travail a été engagé en 2015 et en 2016. Ils ne sont pas arrivés à une position de consensus, mais un résultat vital, véritablement, était très clair, c'est que il y avait un travail qui a été fait de coopération, je dirais, depuis 2005, à de nombreux niveaux. Donc, je crois que nous avons eu la Convention de Budapest, par exemple. Nous avons eu beaucoup de collaboration sur de nombreux problèmes de cybersécurité. Donc, il a été clair que, formellement, ça a fonctionné et que les résultats au niveau de l'Assemblée générale ont été notables, avec des progrès, avec plus de coopération. C'est pour cela que la deuxième piste a été installée en 2016. Et j'ai vu l'ambassadeur Fonseca, je ne sais pas s'il est dans la salle peut-être. Oui, il est juste derrière vous, il vous observe. Eh bien, très bien, donc Son Excellence, l'ambassadeur, a fait un travail remarquable à ce niveau. Et il y avait beaucoup de tensions à cette époque et il était clair que des progrès ont été réalisés auparavant. Mais ce qui compte le plus, c'est comment est-ce que les gouvernements seront-ils en mesure de travailler à des politiques Internet? Oui, nous sommes tous d'accord, les gouvernements doivent travailler à cela. Mais est-ce qu'on a besoin d'un nouveau mécanisme ou pas? Telle était la question. Est-ce qu'il y aurait besoin d'un nouveau mécanisme avec l'UNESCO, avec d'autres entités? Eh bien, les entités commerciales pensent que on n'a peut-être pas besoin d'une structure si rigide, parce que l'Internet a des mécanismes de distribution, tout le monde y participe, c'est la nature de l'Internet, c'est quelque chose de différent. Donc si vous voulez véritablement gérer des politiques, eh bien, il faut utiliser la même structure. Donc, le temps s'écoulant, nous avons fait des progrès et nous sommes d'accord pour collaborer plus avec ce mécanisme. Le CSTD, par exemple, le secteur privé a le droit de prendre la parole dans des groupes de travail, des commerces également, des entreprises, les États sont reconnus également, donc les représentants commerciaux comme Marilyn, donc on a eu la possibilité de faire entendre notre opinion. Donc, ça a été très naturel comme processus, comme mécanisme. Et il y a beaucoup de pays qui sont arrivés à ce point et qui ont dit « Oui, nous pouvons effectuer un compromis. Nous pouvons véritablement prendre le CSTD en compte avec ses conseils sur les politiques publiques. » Donc, il y a un ou deux pays qui ont dit non, on ne veut pas gérer cela de cette manière. Mais les entreprises étaient prêtes à être engagées avec l'ICANN et il n'y avait pas besoin d'autres mécanismes. C'était très naturel comme processus. On a utilisé les systèmes. Il n'y a que un ou deux pays qui ne voulait pas travailler de cette manière. Donc, qui voulait avoir des nouveaux mécanismes, des nouvelles structures, et ainsi de suite. mais il y a eu d'excellentes recommandations, il y a eu beaucoup d'inclusivité, beaucoup de collaboration au niveau international, beaucoup de respect de toutes les parties prenantes. Donc il y a eu des progrès notables qui ont été effectués selon nous et ça a été tout à fait positif. Les parties prenantes se sont mises sur le côté de côté et ont accepté donc ces collaborations en utilisant les mécanismes qui existaient déjà. 99% des personnes étaient d'accord pour cela et ont utilisé les mécanismes existants, donc des bons progrès, dirais-je. Olivier Capin-Leblanc, est-ce qu'on a besoin d'une approbation unanime? Oui, absolument, pas le type de consensus que l'on fait à la CAN. Donc, c'est très différent. Et tant qu'une personne dit « j'objecte », eh bien, tout s'arrête et ça ne fonctionne pas. Donc, le président est ici, il pourrait vous en dire plus, mais véritablement, je félicite le président pour le travail qu'il a fait de modération et d'atteinte du consensus qui a été tout à fait apprécié.
Olivier au micro, merci beaucoup. Ça a l'air assez difficile d'avoir un consensus unanime, un processus qui est long, hein. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions sur ce processus? Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Israël Rosas. Je travaille pour le gouvernement du Mexique, mais je suis ici en mon propre nom. Je suis d'accord avec Martine. On peut avoir des efforts multilatéraux et multipartites. Cependant, les gouvernements qui promeuvent le modèle multipartite ont la possibilité de mettre en place des mécanismes multipartites et le résultat d'espaces multilatéraux, multipartites, avec les différents efforts qui ont été réalisés. Et pour la discussion de l'ICANN, je pense que cela devrait être un compromis principal de notre côté. Merci. Olivier, au micro, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Oui, moi j'en aurais une en tout cas. Toutes les discussions qui ont lieu dans ces forums ICANN, est-il des fois considéré comme un exemple d'un système multipartite qui fonctionne correctement, surtout en ce qui concerne la participation des gouvernements avec le GAC? Très bonne question, Olivier. Oui, je considère l'écosystème de l'ICANN comme un endroit dans lequel la coopération élargie a lieu, mais j'écoute aussi ce que certaines personnes disent. Il y a des gens qui disent que ces comités sont seulement consultatifs et qu'on ne tient pas compte de leurs décisions. En tout cas, cette coopération élargie a lieu parce qu'il y a une évolution. On parle d'Internet. On a un système multipartite, tout le monde a le droit d'écouter, de donner son avis. Donc vous avez les meilleures manières d'avancer. Je dirais que vous avez un organisme très actif avec beaucoup de participation. Je dirais qu'ICANN est un modèle. Je considère ICANN comme un modèle. Si nous avions ICANN à l'UT, je pense que ce serait très bien. Et en ce qui concerne le multilatéralisme et le multipartisme, je dirais qu'il y avait une définition qui avait été donnée par l'ambassadeur, un ambassadeur du Brésil. Il avait dit que le multilatéralisme au Brésil signifie tout le monde, toutes les parties prenantes. Donc c'est une notion différente de celle que nous avons, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Olivier au micro, merci Jameson. Steve Dabianco, Steve au micro. Je dirais qu'il s'agit d'un exercice multipartite, multilatéral. Nous faisons les deux choses, mais nous Je dirais qu'un avocat du multilatéralisme choisirait ICANN pour ses résultats. ICANN va créer quelque chose pour le monde multilatéral, va faire des modifications sur WHOIS. On ne doit pas sous-estimer les opportunités que cela représente pour les gouvernements qui vont avoir certaines obligations, et cela pour beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, les gouvernements ont leur propre voix, mais il y a aussi la voix, l'opinion des organismes de protection des consommateurs. Par exemple, aux Nations Unies, à l'UIT, qui c'est qui gagne? C'est les personnes qui s'occupent de la confidentialité. Donc, il faudrait regarder un petit peu plus. Dans la mesure où on modifie le WHOIS, où on réduit la visibilité de certains sites Internet, ça va devenir de plus en plus un problème pour ICANN de travailler avec ces gens. Ce sera peut-être fantastique avec le DPS, mais ce sera un problème avec les gens, par exemple, qui défendent le multilatéralisme aux Nations Unies. Olivier, au micro. Bien, nous reviendrons sur ce thème du WHOIS par la suite. Maintenant, je donne la parole à Greg Chatton. Greg Chatton au micro. Je voudrais juste dire que la société Internet, l'Internet Society, a un projet de collaboration entre les gouvernements mené par Larry Strickle. Et c'était au début, on cherchait des gens pour se joindre à ce groupe de personnes. Je mets donc le lien dans le chat pour que vous voyez, pour que vous alliez sur cette page et que vous voyez un petit peu ce qui a été planifié. J'espère que ce sera une contribution intéressante pour votre discussion et pour renforcer le modèle multipartite. Ensuite, je voudrais aussi dire que j'ai participé à un groupe de travail il y a beaucoup de participation des gouvernements et le problème n'a jamais été discuté. Il y a eu plusieurs fois où on a fait référence à l'agenda de Tunis et à son application et dans le cadre de ce groupe de travail d'ICANN. Mais je dirais que nous sommes tous sur la même base. Il y a des gens qui sont écartés. Et ça a donné lieu à de longs emails. Et je crois que cela a été présenté comme une bonne idée pour l'interaction de l'ICANN. Merci. Olivier, au micro, merci Greg. Yongam Lee, allez-y. Je voudrais vous rappeler qu'en 2010, aucun des documents de l'UIT n'avait mentionné ICANN. Et je pense que c'est en 2010 qu'ICANN a commencé à apparaître dans un des documents de l'UIT en note en bas de page. Merci. Mathieu. Je ne vous ai pas présenté. Vous êtes le co-président du groupe de travail de la CCNSO, Mathieu. Mathieu au micro, je voulais juste parler de la coopération élargie et en parler un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur de l'ICANN. Et dans certains endroits, ça peut être surprenant d'ailleurs, dans le développement de la stratégie de cybersécurité, il y a des participations entre les parties prenantes. Ce sont des domaines très, très sensibles et cela a lieu au Ghana, par exemple, au Mexique aussi. Monsieur peut-être peut me corriger si je me trompe. En tout cas, ce sont des choses qui ont lieu. Et lorsqu'on parle de fatigue des multipartites et lorsque l'on parle de la coopération élargie qui n'a pas lieu, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que il y a de bons exemples de ce type de choses qui ont lieu à l'extérieur d'ICANN. Olivier au micro, merci beaucoup Mathieu. La cybersécurité a toujours été la responsabilité des agences gouvernementales et le travail est fait et en huis clos par les gouvernements, par les forces de l'ordre. Certains disent que cela change et qu'il y a des initiatives pour que ce processus devienne multipartite et pour que différentes parties prenantes, comme le secteur des privés et la société et public, entrent dans ces domaines-là. Merci beaucoup, Olivier. C'est une question très intéressante que j'aurais aimé qu'on me pose il y a 5 ans. Maintenant, je voudrais qu'on me demande si le multipartisme est une notion qui est derrière la cybersécurité ou derrière la coopération élargie. Vous savez, hier, je suis rentrée dans ma chambre après avoir bu quelques verres de vin et ce qui m'a empêchée de dormir, c'est une nouvelle que j'ai lue. Sur Internet, on parlait de Tim Berners-Lee, un des inventeurs de l'Internet. Un des inventeurs du web. Excusez-moi. Et donc, il disait, nous devons réglementer les systèmes pour prévenir des vols sur le web. Qui voulait ce type de réglementation il y a 10 ans? Pourquoi ce type de choses a lieu actuellement? Quel type d'influence cela peut avoir sur ICANN? Martin Bottermann vient de quitter la salle, hélas. J'aurais aimé pouvoir dire que je ne suis pas d'accord avec lui sur le multipartisme qui est soutenu par le multilatéralisme. D'autre part, je suis toujours pour cette idée selon laquelle, lorsqu'on parle de cybersécurité multipartite, il faut admettre, affronter la vérité que certains forums seront toujours multilatéraux, laisser les gouvernements tranquilles, laisser leur faire leur travail. Et d'autre part, je ne pense pas que dans le domaine de la cybersécurité, le multilatéralisme présente une menace. Et c'est lorsque l'on met la grenouille dans de l'eau très chaude qu'elle saute. Mais si l'on met la grenouille dans de l'eau tiède et qu'on la fait chauffer, on aura une très bonne soupe à la fin et personne ne pourra s'échapper. Et c'est ce qui a lieu maintenant. Si vous regardez le multilatéralisme en cybersécurité, je m'excuse pour cette comparaison cruelle, mais si vous regardez le multilatéralisme, si vous regardez les forums de multilatéralisme dans le domaine de la cybersécurité, est-ce qu'on voit des résultats? On a eu si peur des Nations Unies, ICANN. Les Nations Unies n'ont pas été à la hauteur. Des experts intergouvernementaux n'ont pas pu produire un seul rapport. Il n'y avait pas de substance dans ce que l'on fait dans le domaine de la cybersécurité. Donc, laisser de côté la menace des Nations Unies, mais ils peuvent utiliser la cybersécurité pour réglementer ce qu'ils veulent. Et si vous regardez un autre forum de multilatéral comme l'Union européenne qui s'est engagée à la collaboration et à la coopération avec le secteur industriel et qui dit que le multipartisme, qui prononce le mot multipartisme 10 fois en 15 minutes lorsqu'il parle de cybersécurité. Et lorsqu'on regarde d'autres discussions, lorsqu'on parle de multipartisme avec les gouvernements en tête des décisions, c'est ce débat qui a lieu actuellement. Regardez le multipartisme, la coopération dans le domaine de la cybersécurité et on utilise le terme public. Central, au centre, public devient un mot-clé parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce domaine. Donc, je pense que je conclue ici. Je pense que pour ICANN, les choses ne changent pas du jour au lendemain. Les choses deviennent plus confuses, plus compliquées. Nous devons, à un moment donné, nous n'allons pas nous en rendre compte, mais nous allons nous retrouver dans un environnement complètement différent. Et ICANN est un grand acteur. Et Tim Berners-Lee, l'Union européenne et tous, ils analysent certaines choses et ils vont voir cet éléphant dans la salle. Et nous devons garder un œil là-dessus. Lorsque Sherim a dit, lorsqu'il parle de la sécurité et de la résilience, comme ce matin lors de la cérémonie d'ouverture et de la mission unique de l'ICANN dans ce domaine, je pense qu'il est très important de suivre ce qui se passe et au niveau des forums de gouvernance et au niveau de l'Internet en général. Merci Tatiana. Olivier au micro, merci pour cette intervention. En tant que grenouille, en tant que Français, je me sens un petit peu visée. Ce n'était pas un commentaire contre vous, dit Tatiana. Je demanderai maintenant à Pablo s'il sent la chaleur de la sécurité de l'Internet. Pablo au micro, oui. Je dirais que oui. Et une de nos participations récentes est visée à réunir les coopérateurs des réseaux. Et je dirais que, par rapport à ce que Tatiana vient de dire, je dirais que la cybersécurité présente des préoccupations concernant la sécurité et il y a des éléments que l'on peut laisser au multilatéralisme pour qu'il en discute tout seul. Par exemple, le groupe de gouvernemental d'experts des Nations Unies, dans son rapport de 2015, a accordé sur des normes non contraignantes pour des conduites responsables. Et ces normes incluent, par exemple, le fait qu'il ne devrait pas y avoir d'activité pour participer à des activités malveillantes au niveau international. Donc c'est une très bonne idée. Cette bonne idée a été discutée dans un organisme multilatéral exclusif et il y a très peu de prise de conscience au niveau de cet expert gouvernemental, de ce groupe d'experts gouvernemental. Donc comment ces efforts peuvent-ils être mis en place? Comment est-ce que ces normes peuvent être appliquées s'il n'y a pas de dialogue entre la partie des groupes multilatéraux et la communauté technique? C'est quelque chose qui doit être pris en compte lorsque nous priorisons, comme Mathieu l'a dit, notre participation et notre approche envers cette participation.
Merci Pablo. On va passer la parole à Nigel Axon qui représente l'ICANN. Et nous avons entendu parler des menaces sur le DNS, les attaques de services et ainsi de suite. Donc, oui, j'avais oublié. Chevas, excusez-moi. Hein. Oui, M. Subramanian de l'ISOC India. La sécurité est une partie sacrée, donc, et toutes les parties prenantes ont du mal à dormir à cause de cela. Donc, en ce qui concerne les problèmes de sécurité, donc, au niveau des forums multilatéraux, il y a beaucoup de paranoïa au sujet de la sécurité de l'Internet. Je crois que ça va peut-être changer avec de nouvelles idées dans le cadre du forum multipartite. Je pense que l'ICANN va devoir avancer et faire en sorte que l'on parle plus dans les forums multipartites de cybersécurité. Il y a des aspects secrets également qui existent. Très sensible, des questions très sensibles de stratégie dont il faut parler autant que faire se peut. Mais l'aspect politique, des politiques, de développement des politiques dans le cadre du forum, de se faire dans le cadre du forum multipartite. Merci beaucoup. Shiva, maintenant je redonne la parole à Nigel, qui est donc du personnel de l'ICANN et qui va nous parler de cybersécurité. Je serai très bref. Nigel, au micro, je dirais que l'ICANN contribue à ces débats que nous apportons des faits, nous sommes engagés à tous les niveaux, au niveau du DNSSEC, sur la sécurité du système de nom de domaine. Également dans le congrès de la téléphonie mobile, nous avons travaillé avec des entités gouvernementales et commerciales, ce qui était assez nouveau pour nous. Donc nous allons continuer à ce faire. Et comme l'a dit Tatiana, c'était très pertinent. Je crois que c'est très net. Ce n'est pas logique du tout que le gouvernement se mette autour d'une table, parle de sécurité technique sans qu'il y ait d'experts de présent. Donc maintenant, ça a été accepté par la plupart des entités internationales. Merci. Merci beaucoup, Nigel, Olivier Crépin-Leblond. Donc, on va pouvoir passer au point suivant. Comment est-ce que l'ICANN a des interactions avec d'autres organisations? Je crois qu'on a un protocole d'accord qui a été signé avec l'association des GSM. Tarek Kamol veut peut-être prendre la parole à ce sujet. Oui, en effet, pour revenir à ce que je disais au début de l'heure, eh bien, comme je l'ai mentionné auparavant, nous observons ensemble avec vous, avec le conseil d'administration, dans le cadre de la gouvernance de l'Internet, quels sont les efforts qui existent dans le cadre de l'évolution des technologies, de l'évolution des politiques. Le GSME est très actif au niveau des standards. Mais en plus de cela, avec l'évolution du 5G, David Conrad est donc le responsable informatique de l'ICANN. L'engagement, l'investissement dans le 5G je crois que c'est quelque chose de constructif, de positif. Et il me semble que nous avons une attitude tout à fait positive à ce niveau. Pour faire participer l'ICANN et la communauté de l'ICANN dans des activités de fertilisation croisée, Johan était très intéressé par cela, par ce dialogue, parce que, je ne suis pas un expert, mais lorsqu'on parle du routage, lorsque l'on parle des différentes technologies utilisées, les nouvelles idées du 5G sont très intéressantes pour nous, pour un Internet ouvert, solide, résilient et... Comme l'a dit Chérine ce matin, l'ICANN n'est pas au centre du monde, n'est pas au centre de l'Internet, mais il faut bien connaître notre fonction, notre mission. Donc je crois qu'on doit vous parler régulièrement des délibérations qui existent au niveau du responsable informatique de l'ICANN et du travail que nous voulons faire avec des organisations du secteur privé. Nous devons bien savoir nous situer au niveau de nos partenariats avec d'autres organisations. Ça, c'est un des exemples auxquels je faisais allusion. Nous devons suivre de près la situation et voir où se passent les innovations et donc bien tenir notre rôle. Merci beaucoup, Tarek.
Christopher Wilkinson, allez-y. Merci beaucoup. Merci d'avoir attiré notre attention sur ce MOU, protocole d'accord. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. De défi, ce n'est pas très clair. Ce que vous allez faire n'est pas très clair. Mais cela dit, je recommande, après cette expérience de 6-9 mois, de nous parler un petit peu ou de de nous parler des secteurs les mieux définis, secteurs de coopération les mieux définis. Et quand on parle, par exemple, du téléphone et des technologies du téléphone qui évoluent rapidement, beaucoup plus rapidement que la technologie de l'Internet, c'est peut-être une phase, ça ne sera pas permanent, mais la cinquième génération du téléphone et le changement au niveau international qui existe dans ce domaine sont importants. Donc, la coopération mutuelle avec l'association du GSM sera quelque chose d'important. Olivier, au micro. Merci, Christopher. Tariq, vous avez la parole. Merci, Christopher. Il y a, vous le savez, qu'il y a deux départements légaux qui ont rédigé un accord de coopération, un MOU, tous les deux, et avec beaucoup de spécificités. Donc, comme je vous parlais des véritables cibles, des véritables intentions, ce n'est peut-être pas ce qui est ce qui figure dans ces rapports. C'est un peu générique, mais nous avons commencé un dialogue avec notre PDG, le PDG de la GSM. Et comme je l'ai dit, nous allons faire un rapport sur les progrès qui seront importants pour l'ICANN et pour la communauté de l'ICANN. Merci. Olivier au micro, merci Téric. Quand on parle des organisations ISTAR, est-ce que la collaboration avec ICANN, avec les autres organisations ISTAR, est-ce que cette collaboration se développe? Est-ce qu'elle existe? Peut-être Nigel peut répondre à cette question. Ou Tariq. Et puis Pablo. C'est une question intéressante. Pablo, est-ce que vous voulez parler des ISTAR? Pablo, au micro. Comment ICANN collabore avec d'autres organisations dans l'écosystème? C'était ça la question. Ce que je peux dire, c'est que cette collaboration a toujours été très positive, très constructive, qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été réalisé avec beaucoup de personnel de différents départements, les parties prenantes techniques, les différents responsables d'ICANN, de Genève, de Los Angeles, de APNIC, etc. Une très bonne relation aussi avec notre bureau de Singapour, je dirais. Donc, c'est une bonne chose, c'est une très bonne coordination. Ce n'est pas toujours facile, ça demande beaucoup d'efforts aussi. Je pense que nous devons continuer à essayer de trouver des manières d'utiliser l'énergie qui est nécessaire pour la coordination. Pour nous, quelque chose qui est très important, et c'est que cette collaboration nous permette d'économiser des ressources, d'éviter les doublons, pour que cette collaboration soutienne les efforts au sein de notre organisation de façon à ce que nous puissions participer de manière non contre-productive avec une coordination, avec une organisation pour qu'il n'y ait pas de doublons. Olivier au micro, merci Pablo. Tariq au micro. Peut-être que vous voulez parler de ce dont nous parlons actuellement au Conseil concernant la gouvernance de l'Internet. Nous travaillons avec les ISTAR de manière très proche. Et ce sont des organisations sœurs, mais nous catégorisons notre coopération. Des fois, nous avons un rôle de leadership lorsqu'il s'agit du nommage ou de l'adressage. D'autres fois, nous sommes un membre comme la communauté ou un membre observateur pour d'autres thèmes. Des fois, nous sommes davantage nous avons un rôle plus discret. Nous travaillons au niveau des organisations de tierces parties dans les discussions concernant la juridiction, les droits de l'homme, la protection de la vie privée, la protection des données. Donc, tout dépend du thème, mais je dirais que les mécanismes que nous appliquons lorsque nous travaillons ensemble et lorsque ces mécanismes de collaboration sont bien établis et ont montré vraiment leur solidité, leur efficacité. Voilà. Olivier, au micro, merci Tarek. Merci Tarek. J'allais demander ici, en ce qui concerne le thème des GDPR, du GDPR, est-ce que ici vous voulez nous parler du GDPR? Alors, GDPR, Mathieu, oui. La question est-ce que c'est un problème qui concerne ICANN ou est-ce que c'est un problème qui est plus mondial? Je dirais qu'il y a des effets, Mathieu au micro, qu'il y a des efforts au niveau mondial pour augmenter la protection des données. Et en Europe, il y a d'autres éléments au sein des gouvernements. On considère que WHOIS est essentiel pour les utilisateurs, pour les consommateurs. Donc, s'il y a un affrontement dans l'environnement multilatéral et dans les Nations Unies, ça ne sera pas une bonne chose pour ICANN. Donc, je pense que la discussion ne va pas améliorer la position de l'ICANN ici. Si vous avez le temps, je peux vous parler un petit peu plus de la façon dont l'IGF USA organise son programme pour cette année. Je vois Maryland ici, Dustin qui est là aussi, de ICANN Wiki, Judith Hellerstein. Nous avons organisé un très bon programme cette année. Nous essayons de montrer que les gouvernements doivent protéger leurs citoyens au niveau des contacts sur ce qui se passe au niveau de l'Internet et des téléphones. Tout cela concerne la gouvernance. Nous allons couvrir une série de thèmes et nous allons parler du travail futur dans les nouvelles économies, de l'impact de l'Internet dans la culture sociale, dans les valeurs démocratiques, parlons des élections, les problèmes de protection de la vie privée, le GDPR par exemple, la concurrence, est-ce que les gouvernements devraient réglementer les plateformes en ligne au niveau du marché commercial, pensons à la concurrence, aux droits de l'homme, aux droits civils, la modération sur les plateformes, ce dont parlait Tatiana, avec des plateformes qui doivent être responsables de ce qu'elles disent et de ce que les personnes disent sur la plateforme, et puis équilibrer la liberté d'expression et les fake news. Donc voilà, c'est sur ces thèmes que nous travaillons et je vous encourage dans vos IGF régionaux à aborder ces thèmes également. Olivier au micro, je donne la parole à Tatiana, une ou deux minutes. Tatiana au micro. Steve, je suis tout à fait d'accord avec vous à propos de ce que vous venez de dire. Moi, ce qui me gêne concernant ces fake news, ces plateformes, responsabilité des plateformes, etc., c'est que tout cela passe dans le domaine de la cybersécurité, comme si la cybersécurité représente une menace. Les fake news représentent une menace et même les gens qui disaient auparavant que la cybersécurité n'inclut pas de contenu changent d'opinion. Je pense que c'est le problème que nous devons suivre de près parce que cela implique la mission de compagnies qui travaillent dans le domaine des TIC. Merci. Et merci Olivier. Je voulais parler de quelque chose que Tarek a dit au début. Il m'avait proposé de prendre la parole et Steve a parlé de la série de thèmes abordés par l'IGF dans leur pays. Et il y a différents pays, différentes régions qui établissent leurs programmes pour l'IGF et les choses qui vont être... Il y a quelque chose d'important ici à dire, c'est que les discussions se sont focalisées sur les organisations intergouvernementales au niveau mondial qui nous intéressent, surtout quand on parle des décisions finales. Et Nigel a dit que ce sont des longs processus, donc on attend leurs décisions. Et si quelqu'un, une personne décide de dire non, à ce moment-là, nous n'avons pas de décision. Mais je pense que ce qui est important de dire, c'est que pendant cette période d'attente, il y a tant de communautés qui s'organisent, qui font des changements. Ce ne sont pas des décideurs finaux, mais ils essayent de trouver un moyen d'influencer les décideurs. Si vous regardez l'IGF au Nigeria, on va vous parler des changements qui ont lieu dans la cybersécurité. Si vous allez aux Pays-Bas, vous allez voir que le gouvernement coopère avec les parties prenantes, avec l'IGF national. C'est très encourageant. Quand on voit ces communautés qui augmentent, qui organisent leur processus multipartite pour discuter des thèmes qui les intéresse et pour influencer les autres, c'est encourageant. Et dans le contexte d'ICANN, c'est ce que je voulais dire. Darek a dit au début, est-ce qu'il y a une fatigue quand on parle de discussion sur les processus, hein, sur ce que l'on discute? Je dirais que les régions, les pays qui ont leur propre IGF, les processus multipartites qui existent, nous démontrent qu'il n'y a pas de fatigue, qu'il y a une nouvelle énergie, hein, et que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle phase très encourageante. Et je voudrais dire, je sais que nous sommes en retard, que je veux remercier ICANN, parce que si on regarde les sponsors, qui sont les sponsors de ces processus, qui soutiennent ces processus, vous allez trouver ICANN en tête de ces listes. Ce sont les personnes qui soutiennent de toutes les manières possibles et financièrement aussi. Donc, dans ce sens-là, je remercie ICANN. Olivier au micro, merci beaucoup. Ça fait plaisir à entendre. Darek, je voudrais corriger ici un petit peu quelque chose que vous avez dit. Je parlais de fatigue, non pas au niveau national et régional sur la gestion des problèmes. Je parlais de fatigue pour aborder les problèmes mondiaux de la gouvernance de l'Internet à cause du manque de consensus et pour la prise de décision. C'est ce que je voulais dire. J'ai donné deux exemples de processus que je ne vais pas répéter, qui ont déjà été mentionnés, mais c'est ça que je voulais dire. L'IGF national, les IGF nationaux et régionaux sont en train de passer par une période de grand développement, un boom, et le consensus pour les recommandations. Les recommandations pour le consensus avancent sur différentes plateformes et en ce qui concerne la gouvernance de l'Internet, j'ai personnellement moi aussi certains doutes concernant la lassitude. Olivier au micro, les débats, les discussions continuent à avoir lieu. ICANN doit continuer à participer à ces discussions. ICANN doit continuer à être présent dans cet écosystème. Nous sommes en retard, donc je remercie tous les intervenants de cette discussion, tous ceux qui ont participé à ce débat. Merci à tous. Nigel au micro, Olivier, je voudrais vous remercier pour avoir modéré ce débat. C'est une séance du groupe intercommunautaire. Si vous avez des doutes, c'est une séance du CCWG. Donc, si c'est la première fois que vous participez à ce type de réunion du CCWG, si vous voulez entrer dans ce groupe de travail, venez nous voir. Et je serai ravie de vous rajouter sur notre liste de membres du groupe de travail. Merci.
It's not even a party.